TFM, le mag, tous les jours, 17h, 17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
Bonjour tout le monde, le mag du Tarn-et-Garonne, comme chaque jeudi, laisse la place à Kader Youb. Salut Kader.
Bonjour Aurélien, bonjour à tous.
Aujourd'hui, ton invité, José González.
Oui, José González. Bonjour Monsieur González.
Et bonjour.
Vous êtes donc vice-président du conseil général de Tarn-et-Garonne, étiquette radicale de gauche, hein. Vous êtes radical de gauche, président de Tarn-et-Garonne Habitat aussi.
Également.
Et conseiller municipal à l'opposition ici à Montauban. Un mot sur Sivens, si vous êtes d'accord, hein. C'est la actualité Sivens, deux experts nommés par les pouvoirs publics qui animent un groupe de travail composé des représentants des conseils généraux du Tarn et du Tarn-et-Garonne. On vous a très peu entendu sur ce sujet. Est-ce que vous y êtes allé, vous, à ce groupe de travail?
Non, pas du tout. Je n'ai pas été désigné pour aller travailler dans ce groupe de travail. Je voudrais quand même, si vous le permettez, avoir une petite pensée vis-à-vis de ce jeune qui est décédé.
Rémi Fraisse, oui.
D'une façon dramatique. Et puis avoir une pensée également pour sa famille et ses amis qui doivent vivre de mauvais moments en ce moment. Je voudrais dire quand même que par rapport à ce barrage, c'est un projet qui est étudié depuis plus de 10 ans. Toutes les phases de la procédure ont été prévues, ont été respectées. On s'aperçoit que le monde agricole et économique était absolument favorable à ce projet. Parce que l'eau va être une denrée rare à un moment donné, avec une population, une démographie galopante sur la région Midi-Pyrénées, il faudra bien trouver des points d'eau. Mais pour ma part, je voudrais signaler que la violence est quand même inadmissible. Et je pense qu'il ne doit pas y avoir d'opposition aux règles qui régissent notre pays. Nous sommes dans une démocratie, il y a des règles, et il me semble qu'il faut les respecter. Si on accepte la violence, alors quels projets pourront voir leur jour demain, que ce soit l'économie, l'emploi ou l'environnement? Si on s'arrête à ça, quoi, hein, je veux dire.
Vous étiez pour ce projet, vous êtes pour ce
écoutez,
projet.
Écoutez, nous avons été pour au département, pour l'assemblement, puisque nous sommes co-financiers. Parce qu'il y avait besoin et que tous les riverains et toutes les populations qui longent le Tesco étaient favorables, et notamment le monde agricole était favorable à ce projet.
Alors le monde agricole, les opposants disent que ça va profiter, c'est pour profiter à une poignée d'agriculteurs et que finalement bénéfice...
Il n'y a pas que les agriculteurs, il y a aussi les besoins d'eau que nous aurons demain dans cette région. Nous avons une politique de l'eau au niveau du département qui a fait ses preuves et dont tout le monde agricole est extrêmement content dans ce département. Cette opération était une opération qui était bénéfique par rapport aux agriculteurs et au monde économique du secteur, dont nous avons souhaité, après toutes ces étapes dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui ont donné un avis favorable à ce projet, nous avons accepté de participer et de financer cette opération.
Est-ce que vous le suivez de près, ce dossier, vous, votre président?
Non, je ne suis pas. Personnellement, non. Il y a une commission de l'eau et de l'environnement qui suit ça de près. C'est un conseiller général qui préside cette commission, mais moi, je ne suis pas à cette commission. Mais c'est vrai qu'en séance, nous avons, suite aux avis qui nous ont été formulés par les différentes étapes qui ont été... qui ont examiné ce projet et qui ont donné un avis favorable, nous avons donné notre avis favorable.
Vous parlez d'agriculture, l'agriculture c'est le nerf ici à Tarn-et-Garonne. Hein. Quelles sont les actions justement que vous menez au Conseil Général pour l'agriculture du Tarn-et-Garonne?
Alors pour l'agriculture, mais c'est très important, nous sommes dans un département essentiellement agricole.
Que fait le Conseil Général?
Le Conseil Général, il participe à l'aménagement des bassins d'eau pour venir en aide aux agriculteurs pour l'arrosage, etc. Plusieurs secteurs du département, on retrouve des petits lacs, des plans d'eau, etc., qui servent pour les vacances, effectivement, pour les jeunes qui vont pouvoir se baigner à l'été, là, dans les moments de grande chaleur, mais surtout qui servent pour venir en aide aux agriculteurs pour faire les arrosages nécessaires à l'agriculture de ce département. Mais nous menons une très grande action vis-à-vis du monde agricole. Nous aidons le monde agricole, que ce soit l'éleveur.
Vous avez parlé avec lui de ce scrutin. Est-ce que c'est un changement de paradigme, un changement dans la tête, quelque part, un système qui s'écroule comme on l'a lu quelquefois?
Bon, je crois que Il y a d'autres éléments qui rentrent en compte dans cette affaire-là. D'abord, ces élections sont passées il y a 2 mois.
Oui.
Hein. Les urnes se sont exprimées, le résultat a donné deux sénateurs, un ancien et un nouveau. Après, quand on perd une élection, toujours il faut se poser des questions. Il faut d'abord, je pense qu'il faut s'en prendre à soi-même. Est-ce qu'on a fait une bonne campagne? Parce que c'est une campagne au deuxième degré, puisque ce sont les élus, les maires et les adjoints qui votent pour cette élection-là. Est-ce qu'on a bien travaillé dans l'intérêt du département?
C'était une mauvaise campagne, selon vous?
Non, je crois pas. Je crois qu'on a fait une très bonne campagne. Mais il y a au-delà de la campagne. Ce qu'il faut tenir compte, c'est le travail qui a été fait pour ce département. Et le Conseil général s'est beaucoup impliqué là-dessus et fait un travail énorme.
Sur les sénatoriales, c'est pas le Conseil général, mais sur les sénatoriales, est-ce que finalement on sent chez vous une espèce de colère contenue, mais en tout cas.
Mais non, mais moi je suis respectueux.
Vous en voulez quand même aux grands électeurs qui ne sont pas portés.
Mais non,
sur...
mais moi je suis respectueux des élections et des résultats des élections. Il y a eu, c'est vrai, un changement lors des dernières municipales avec de nouvelles équipes de municipales qui sont arrivées sur le département, de nouveaux maires, de nouveaux conseillers municipaux, etc. Bon, il y a eu un changement. Donc ces gens-là ne sont peut-être pas au courant de ce qui se fait au niveau du conseil départemental, etc. Donc ça peut être certainement joué. Mais je crois qu'il faut pas en vouloir là-dessus. Il y a en tant que bon démocrate, une fois que les élections se sont passées, que les urnes ont parlé, ben il faut respecter, c'est la démocratie. Mais enfin, non, je n'en dirai pas plus là-dessus, vous m'excuserez, mais je ne crois qu'il ne faut pas trop s'attarder sur cette affaire-là, sur ce sujet.
Un dernier mot, M. Gonzalez, si vous permettez.
Ce que je voulais vous dire, quand même, c'est que, à mon avis, il y a eu quand même des comportements surprenants lors de ces élections, et que, bon... C'est tout ce que j'ai à me dire de plus.
Mais justement, permettez-moi d'insister sur les sénatoriales. Une dernière question. Vous parlez des comportements qui n'ont pas été peut-être à la hauteur de ce que vous attendiez, de ce que vous espériez, ce qu'espérait Jean-Michel Baïdé. Il y a eu ce soupçon, ou en tout cas ces demi-accusations, contre les électeurs socialistes et qui ne seraient pas reportés sur Jean-Michel Baïdé. Est-ce que ça, on a entendu des radicaux, hein,
oui,
critiquer.
Bon, on peut tout dire, hein. Personnellement,
je ne m'exprimerai pas là-dessus,
parce que c'est, vous savez bien, une fois qu'on rentre dans l'isoloir, il faut être très fort pour dire qui a voté, qui n'a pas voté.
Vous l'avez entendu,
alors,
monsieur Gonzalez?
Moi, je l'ai entendu.
Est-ce que vous,
et
vous
en tant que démocrate et en tant que républicain, et respectueux de la discipline républicaine, s'ils n'ont pas voté, ils ont créé une mauvaise démarche. Car honnêtement, nous avions en la présence de Jean-Michel Baïlé un homme d'État, une grande stature dans la vie politique de ce pays. Certains ont fait le choix du changement, ils l'ont fait. Bien, écoutez, ils verront bien dans l'avenir. Moi, ce que je les connais, les deux nouveaux là qui viennent d'être élus, les deux sénateurs. Ils ont leur chemin à parcourir au sein du Sénat, ils ont leur travail à faire. Bon.
C'était un habitué, Yvon Collin, quand même.
Pardon?
C'était un habitué du Sénat, Yvon Collin.
Oui, tout à fait, mais je le connais bien. C'est pour ça que je ne m'exprimerai pas davantage, je sais ce que j'en pense, et puis nous verrons bien dans l'avenir ce qui se fera et ce qui arrivera pour le département, dans la mesure où ils sont élus, j'espère qu'ils vont travailler pour les Tarn-et-Garonnaises et les Tarn-et-Garonnais, et surtout pour le département.
Le rendez-vous politique de Kader Youb tous les jeudis. Aujourd'hui, Kader, tu reçois José González, vice-président du Conseil général du Tarn-et-Garonne. On se retrouve dans 2 petites minutes, juste après une coupure pub.
CFM à Castelsarrasin. Castelsarrasin. 90.7.
Oui, José González, sur CFM. On revient donc avec vous sur votre vision à vous de la réforme en cours, réforme des collectivités territoriales. Quid de l'avenir du département? Il semblerait que le Premier ministre vous ait apporté en tout cas des motifs d'espérer, de satisfaction sur son souhait de ne pas toucher aux territoires ou en tout cas aux départements ruraux. Quel est votre avis, votre opinion sur cette réforme en cours?
Oui, comme vous venez de dire, là, je crois que notre président, Jean-Michel Baïlé, a joué un rôle prépondérant là pour préserver les départements ruraux. Mais je dois avouer que j'ai été extrêmement surpris, comme beaucoup de mes collègues, de l'annonce faite sur la nouvelle organisation et les élections en mars 2015 pour le conseil départemental. J'ai été surpris parce que je pense très sincèrement qu'on a pris le problème à l'envers.
C'est-à-dire ?
D'abord, il n'y a pas eu de concertation dès le départ. Nous avons appris cette nouvelle lors de la déclaration de politique générale du Premier ministre à l'Assemblée nationale, où on nous a appris qu'il y avait un changement qui allait intervenir, qu'on allait supprimer les départements, etc., etc. D'autre part, jour, les compétences ne sont pas définies encore, puisque c'est en discussion encore au niveau du Sénat. Et également, il y avait la remise en cause des départements ruraux, et je crois que aujourd'hui, on apprend que, et j'espère que ça sera ainsi, on apprend qu'il y aura une cinquantaine, 50 à 54 départements ruraux qui seront préservés et qui maintiendront, sur lesquels nous maintiendrons en 2020, dont les conseils départementaux.
D'ici 2020, il y a beaucoup de l'eau qui va couler sous le pont.
Il va y avoir des élections, il va y avoir les régionales, il va y avoir les présidentielles, les législatives. Alors, qu'est-ce qui se passera en 2020?
Quoi qu'il en soit, le Tarn-et-Garonne n'a pas vraisemblablement de quoi s'inquiéter sur son devenir.
S'il y a un département rural dans ce pays, je crois que le Tarn-et-Garonne en fait partie.
Il en a eu de l'assurance, Jean-Michel Baillet,
tout à fait. D'ailleurs, même lors d'une réunion qui a eu lieu à Paris, le Premier ministre a fait une déclaration dans laquelle il s'est engagé à préserver les départements ruraux, et le Tarn-et-Garonne en fait partie.
Vous connaissez quand même les contraintes, notamment budgétaires, c'est la crise, c'est en tout cas ce qu'on nous dit, tout le monde doit participer. Les collectivités territoriales, qui ont d'ailleurs été pointées du doigt par Didier Migaud, le président de la Cour des comptes, sur votre propension à dépenser, c'est selon ces termes en tout cas, à dépenser les deniers, à avoir recours à du personnel de plus en plus important.
Non, mais il faut être... Là aussi, vous comprenez, il y a ce qu'on dit...
De manière générale,
il y a ce qu'on dit à la télévision ou à la radio et la réalité. Lorsqu'il y a quelques années, il y a eu un transfert de charges de l'État... en 2000, je ne me souviens plus l'année, mais qu'il y a eu ce transfert de charges, c'est près de 400 emplois qui sont venus renflouer le personnel du département, que ce soit le personnel dans les établissements scolaires, que ce soit le personnel dans les DVT, l'équipement, etc., etc. Donc, je veux dire que c'est pas l'embauche qu'il y a eu, c'est l'arrivée de ces transferts de charges qui a fait qu'on a augmenté le personnel au niveau des départements, et qui fait qu'on a une charge de personnel un peu plus importante.
C'est un mauvais procès.
Moi, je crois que c'est un mauvais procès.
Fait aux collectivités.
Mais tout à fait, tout à fait. Alors, quand on nous parle également d'économie, moi, je veux bien des économies, mais il faut être sérieux, quoi. Pour le 82, que je vais prendre dans l'exemple, on a créé 15 cantons, puisqu'en 2015, mars 2015, ce sont 15 cantons qui ont été créés, avec à chaque canton, il y aura un binôme. Aujourd'hui, nous sommes 30 conseillers généraux. 30 cantons, 30 conseillers généraux.
Vous êtes content de cette réforme?
Demain, non, je ne suis pas content.
Si, pourquoi?
Un point positif que je vais vous indiquer. Mais il va y avoir 15 cantons. Et dans ces 15 cantons, il va y avoir des binômes, hommes et femmes. Ça veut dire que nous serons toujours 30 conseillers généraux à Montauban. C'est là où on va faire des économies. Et enfin, quand on sait ce que représentent dans le pays les indemnités des élus, ça représente 600 millions, je crois, pour l'ensemble du pays. Et pour l'ensemble des élus. Mais ce n'est rien, quoi.
C'est pas tant sur les indemnités, mais sur...
Économies, si vous voulez.
C'est pas un progrès pour vous?
Alors, pour moi, le côté positif, que je trouve très positif et qui est, pour moi, une avancée significative.
Une femme dans le conseil général de Tarn-et-Garonne.
Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est ce que je voulais vous dire. C'est le côté très positif de cette situation. C'est que le prochain conseil départemental aura 15 hommes et 15 femmes.
Ouais, ça, c'est une avancée.
Et ça, je crois que c'est une avancée significative, et je tenais à le souligner.
À supposer que vous soyez élu, est-ce qu'il y a des chances que José González fasse partie de cette assemblée départementale?
Oula, d'abord, il faut être élu. Hein.
C'est ce que j'ai dit.
Donc, après,
Il faut être candidat avant d'être élu.
Avant d'être élu, il faut être candidat.
Et est-ce que vous le serez
Pour l'instant, j'ai pas pris la décision.
Vous n'avez pas pris la décision?
Non, pas encore. Je réfléchis et puis je fais partie d'une formation politique. Et j'ai l'habitude, depuis que je fais de la politique dans ce département et dans cette ville, c'est de respecter les engagements de mon parti et les décisions qui sont prises par mon parti.
Est-ce qu'il y aura une discussion, pas de négociation, le terme est galvaudé, mais en tout cas des discussions avec votre partenaire historique, le Parti Socialiste, justement sur ces élections cantonales, sur une stratégie, sur une marche à suivre, puisque on sait maintenant que le Conseil général est dans la ligne de mire de l'UMP et notamment de sa chef de file ici à Montauban, à Brigitte Barège.
Oui, mais ça, on le sait très bien. Puis ça ne change rien, c'est un secret de polichinelle. Vous savez très bien que depuis que nous participons aux élections dans ce département et dans cette ville de Montauban, nous avons toujours discuté avec nos partenaires, que ce soit le Parti Socialiste ou les Verts ou le Front de Gauche, etc. Nous avons toujours discuté avec eux, même au-delà.
Il se pourrait que Jean-Michel Baillet puisse peut-être passer la main, on le dit un petit peu dégoûté de la politique, notamment sa défaite.
Ne vous en faites pas.
Est-ce qu'il pourrait passer la main justement
Il pourra, oui. Il est susceptible. De passer la main, ça c'est les élections qui nous diront ça. Hein.
Moi, élections, il faut être candidat. Est-ce qu'il le sera, le candidat?
Là, je peux pas vous répondre.
Vous en parlez avec lui.
Ce que je sais, c'est qu'il sera candidat.
On parle d'un scrutin, Monsieur Gonzalez, qui va se dérouler dans trois, quatre mois, une campagne qui va se préparer certainement après Noël.
La vie politique va très vite. Hein. Les choses se passent très rapidement. Hein. Donc, moi, aujourd'hui, je ne vais pas m'avancer et vous donner une réponse que seul le président peut vous dire. Hein. Je ne peux pas vous le dire. Par contre, ce que je peux vous dire, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un secret de polichinelle, c'est que effectivement, nous aurons des discussions avec nos partenaires du Parti Socialiste, des Verts, du Front de Gauche, etc.
Un peu ce qui s'est passé pour les municipales. Est-ce que vous regrettez, finalement, lors des dernières municipales, d'avoir suivi Roland Garrigue, puisque vous aviez l'intention, au tout départ, de vous présenter à titre personnel?
Non,
est-ce que vous regrettez,
vous savez,
finalement, une erreur de casting?
Vous savez, ça, chacun jugera de ce qu'il en pense là-dessus, mais vous savez, vous me donnez l'occasion de vous dire certaines choses, c'est que je suis un fils de républicain espagnol. Un fils de réfugié. Je sais ce qui s'est passé en Espagne. Je connais les malheurs que nous avons eus dans notre famille. Et je vois les choses évoluer d'une façon qui me font faire des craintes sur l'avenir et sur le déroulement des problèmes qui existent aujourd'hui dans ce pays. Et j'ai observé que dans la désunion, on n'arrive jamais à gagner. C'est dans l'union qu'on gagne. Et la désunion, en Espagne, on sait ce que ça a donné en 36-39. Donc moi, en France, ce que je souhaite, et c'est ma politique à moi, et c'est ma démarche à moi, c'est de travailler dans l'union et de nous battre dans l'union, pas dans la désunion.
Vous êtes sceptique, on le sent, sceptique sur l'avenir?
Je suis sceptique parce que je trouve que les gens veulent les choses, que les résultats arrivent tout de suite. Et on ne peut pas faire en 2 ans et demi ce que d'autres n'ont pas fait en 10 ans ou en 15 ans. Voilà, c'est tout. Et après, chacun juge comme il le veut. Et moi, c'est mon opinion.
Vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Est-ce que vous regrettez de ne pas être allé tout seul à la bataille des municipales, tout seul avec votre parti?
J'ai répondu à votre question, c'est-à-dire que c'est pas dans la désunion qu'on peut arriver à gagner les municipales à Montauban.
Donc c'est votre réponse.
Oui.
Donc
c'est dans l'union.
L'union plus
c'est
que
dans
jamais.
L'union. Alors après, chacun jugera si c'est le bon casting de tête de liste ou pas. Ça, c'est chacun donne sa version là-dessus.
Vous êtes sceptique, mais beaucoup de Français sont sceptiques comme vous, Monsieur Gonzalez. Un Français sur deux dit ne plus avoir confiance ni à la droite ni à la gauche. Est-ce que ça vous inspire de la tristesse ou en tout cas où vous dites on va se retrousser les manches, nous élus, pour que justement cette tendance puisse s'inverser?
Mais oui, mais parce que je suis sceptique parce que il faut redonner une image positive de l'élu. Moi, je suis un élu de base. Je suis conseiller général de Montauban. Je suis un élu de base. Je suis pas parlementaire, etc. Et alors, quand je vois toutes ces affaires qui se multiplient au niveau national, encore aujourd'hui, là, ce soir, 3 élus UMP, la haute autorité de la transparence vient de passer au tribunal, là, vient de signaler 3 élus, 2 députés, un sénateur, pour ne pas avoir déclaré des comptes à l'étranger, etc. C'est ce qu'on voit dans la presse. Et
c'est tous les jours.
Moi, je suis catastrophé. Je suis catastrophé. Et je me dis, nous, petits élus de base, comment on peut surmonter ces situations qui sont extrêmement difficiles et que nous ne sommes, dont nous ne sommes pas responsables, quoi. Hein. C'est ça qui me fait peur quand je vois ces affaires Big Malion, quand je vois des députés qui déclarent pas, qui ne payent pas leur loyer ou leurs impôts, quand je vois ces affaires que je viens d'évoquer et tout ça là, moi ça me désole, ça me désole complètement parce que j'ai une autre conception de la démocratie et de la politique. Et je crois que dans ce pays, comme dans tous les pays, dans la mesure où on est en démocratie, il faut qu'il y ait des élus sans tâche et des élus qui travaillent dans l'intérêt général, parce que c'est ça, quand on est élu. C'est pour travailler dans l'intérêt général, pas pour les intérêts particuliers. Et qu'une démocratie sans parti politique fort et sérieux, ben elle pourra pas avancer, quoi.
Vous êtes José González, président également de Tarn-et-Garonne Habitat, en plus oui. de votre mandat au Conseil général et à la mairie de Montauban. En quoi consiste Tarn-et-Garonne Habitat et est-ce que vous, d'après vous, qui êtes bien placé pour le voir, est-ce qu'il y a une crise du logement à Montauban et dans le Tarn-et-Garonne?
Ben, c'est-à-dire que il y a une crise, oui. Il y a un problème par rapport au pourcentage de logements sociaux qu'il faut réaliser, notamment sur la communauté d'agglo.
Il n'est pas assez élevé, ce chiffre?
Il n'est pas assez élevé, puisque nous devons passer maintenant à 25, et que nous en sommes très loin. Pour ce qui nous concerne, bon, nous sommes le premier bailleur social du Tarn-et-Garonne, avec plus de 4000 logements. Nous avons notre siège en Tarn-et-Garonne, hein, contrairement à d'autres qui sont de l'extérieur et qui viennent travailler, ce qui est normal, hein, qui viennent construire sur le département et sur la communauté d'agglo.
Parce que vous en faites pas assez.
Tarn-et-Garonne, on ne peut pas tout faire.
Non.
C'est pas possible. Donc il faut qu'il y ait d'autres bailleurs qui puissent venir et s'installer et travailler dans l'intérêt de la population. Mais bon, je crois qu'on n'a pas fait assez de, on n'aide pas assez Tarn-et-Garonne Habitat. Je pense à la communauté d'agglo. Je l'ai déjà dit à Madame le maire. J'espère qu'elle m'entendra et qu'elle essaiera de comprendre que un organisme public, parce que nous sommes un organisme public, avec tous les avantages et surtout inconvénients qu'il y a. Et nous exerçons un travail de proximité. Nous avons un rôle que nous exerçons social et très social dans le cadre du logement social.
Est-ce que d'ailleurs,
j'ai décidé cette année de ne pas augmenter le coût du loyer. Ça a été approuvé par le dernier conseil d'administration parce que je sais que 2015 va être une année peut-être un peu difficile et que je voulais quand même laisser un peu d'air, un peu d'oxygène à nos locataires de façon qu'ils soient pas ennuyés par le paiement de leur loyer. Voilà, donc j'ai travaillé là-dessus. C'est un organisme auquel je me suis beaucoup attaché parce que quand je prends quelque chose en main, j'essaie de le faire le plus sérieusement possible. Voilà, c'est un organisme qui essaie de jouer son rôle, comme je vous le disais, de bailleur social, très, très social. Et je crois que dans ce département, quand on sait que plus de 80% de la population est en dessous du seuil, je crois qu'il y a un rôle important à jouer et il faut que toutes les collectivités puissent nous aider, et tous les bailleurs d'ailleurs, les aider pour essayer de jouer notre rôle le mieux possible dans ce département.
Et vos propos font écho au rapport statistique annuel du Secours catholique Caritas qui pointe une nouvelle fois une précarité, une évolution de la pauvreté, notamment aussi dans le Tarn-et-Garonne. Est-ce que, d'après vous, il y a un signal d'alerte, un point de non-retour finalement sur la précarité en Tarn-et-Garonne?
Mais c'est-à-dire qu'il y a dans le cadre du logement social, c'est vrai que le quota qui est prévu de 24-25% n'est pas atteint, donc on en est loin. Mais il y a également une deuxième partie, ce sont les logements privés au centre-ville. Vous savez qu'il y a des immeubles qui sont vides,
oui.
Qui ne sont pas réhabilités, qui ne sont pas loués, etc. Alors plusieurs éléments, hein, ce n'est pas de la faute ni à la collectivité, ni à nous, de cette affaire-là. Mais je sais qu'il y a plusieurs immeubles qui sont vides et qu'on pourrait réhabiliter et qu'on pourrait pouvoir donner un nouveau look, une nouvelle image, de façon à pouvoir louer à des familles qui en ont besoin dans le centre-ville.
Une dernière question,
Monsieur González, sur cette décision qui n'a rien à voir, la décision de Madame Barèche de regrouper les principaux festivals de la ville portés par l'association sur un et un seul festival. Pour la question de Sillon.
Moi, je peux pas vous répondre en 5 minutes, en 2 minutes. C'est une décision qui a été prise, que nous avons appris par la presse, puisque en tant que conseiller municipal de Montauban, on ne l'a jamais évoqué. Donc ça, la décision a été prise. Bon, je crois que c'est un peu gênant. Si c'est sur le plan financier, peut-être que c'est une affaire qui pourrait, qui peut les intéresser. Mais si c'est sur le plan associatif, je rappelle quand même qu'une association, eh bien, elle a ses statuts, elle a son bureau, elle a un président, et que chacun gère les associations en fonction des décisions qui sont prises. Mais ce n'est pas une collectivité à s'immiscer dans une association.
Merci, José González.
Merci Kader Youb, on se retrouve début décembre, je crois, oui. Puisqu'on va laisser la place à la culture pendant une quinzaine, puisque c'est le festival Confluence qui sera mis à l'honneur sur
Lettre
CFM et le festival Lettres d'automne. Merci Kader,
merci.
À bientôt.
Merci, au revoir.